va se retrouver évidemment dans un instant avec les grandes voix, n'est-ce pas? Vous nous les présentez?
Oui. Bah oui, avec grand plaisir, puisque c'est maintenant l'heure de les retrouver jusqu'à 19h. Le débat des grandes voix, c'est maintenant. Avec autour de vous et à distance, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service Économie à Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bonsoir
à
tous.
Ce petit écho qu'on aime tant. On va s'habituer, on va plus vouloir retourner en studio. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver évidemment ce soir encore. Est-ce que vous avez écouté Jean-François Delfraissy il y a quelques instants, notamment vous, Ève Roger, professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid-19. Vous avez entendu, et vous me souffliez le pic. Non, mais je vais le dire aux auditeurs parce qu'on se dit tout là en ce moment. Le pic n'est pas encore là. Effectivement, vous avez raison. Il nous a dit, hein, quand même plutôt semaine prochaine. Hein.
Alors, on parle du pic en Île-de-France. En Île-de-France, on parle absolument. Même pas du pic en France, c'est en Île-de-France.
Tout à fait.
Et donc, on parle plutôt pour des premiers jours d'avril. Là, c'est que le début et ça a commencé mardi soir assez brutalement. Et petit à petit, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre de plus en plus important de patients qui vont arriver dans les hôpitaux franciliens en service de réanimation. D'ailleurs, j'ai même les derniers chiffres là d'aujourd'hui à 17h. Donc, on est passé hier, on était à peu près à 1150. Là, on est déjà à 1300. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à on a dépassé le nombre de patients, on a dépassé le nombre de lits en réanimation qu'il y a en temps normal en Île-de-France. Donc évidemment, ils en ont prévu plus, mais ça veut dire qu'on augmente à peu près 150 patients chaque jour. Et en gros, on a ce que disent les responsables franciliens, c'est qu'on a 3 jours d'avance. Là, ça veut dire qu'on a 3 jours de lits, et puis dans 3 jours, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors bien sûr, Jean-François Delfraissy l'a dit, et je vous le répète, c'est-à-dire que ça fait 3 semaines que l'Île-de-France se prépare. Et donc c'était une immense chance de pouvoir se préparer, d'avoir tout ce temps-là pour se préparer. C'est une immense chance d'avoir les exemples du Grand Est.
Du Grand Est, voilà, c'est ça.
D'avoir eu des modèles, de voir comment ils avaient fonctionné, quelles étaient les erreurs à ne pas faire. Mais alors, ce qui est frappant, c'est qu'ils me disent depuis plusieurs jours qu'ils se préparent, qu'ils mettent des lits de réanimation partout où c'est possible, dans les blocs opératoires, dans les salles de réveil, partout. Et même, j'ai eu un professeur de pédiatrie qui dit qu'il met des lits de réanimation adulte dans son service pour enfants, quoi. Donc vraiment, on a poussé les murs partout. Et pourtant là, on sent quand même un vent de panique. C'est ça qui est très, très, très inquiétant. Ça veut dire que même avec autant de préparation, même avec autant de sérénité, c'était ces mots-là qui étaient employés. Et ben, maintenant qu'on est dans le dur, maintenant qu'on rentre dans le dur, et ben, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se terminer. Quoi.
Exactement. Alors, on ne sait pas. La seule chose peut-être que l'on sait ce soir, en tout cas, non sur le pic, hein, on l'a bien compris, parce que toutes les régions vont être touchées une à une, c'est peut-être sur les tests. Là, Jean-François Delfraissy nous a donné une information. Dans les 10 jours à venir, 30 à 40 000 tests pourront être effectués, ce qui change quand même considérablement la donne, parce qu'on est très loin de ce compte-là aujourd'hui. Évidemment, Ève Roger et puis Mickaël Darmon, Emmanuel Duteil.
Hier soir avec Mickaël Darmon, c'est les 29 000 annoncés hier soir par le président Macron. Je ne sais pas si Jean-François Delfraissy est mieux informé ou si les Marseillais, mais c'est effectivement de ces tests-là dont on parle, c'est-à-dire entre 30 000 et 40 000 d'ici, plutôt, je dirais, 15 jours. Par rapport à
lui nous dit 10 jours, on va espérer que ce soit 10 jours. Mickaël Darmon, on entend Jean-François Delfraissy qui est au plus proche du président de la République. On entend aussi le président de la République hier à l'hôpital de campagne de Mulhouse faire certes des annonces, mais être quand même très, j'allais dire, nébuleux, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais sur la suite pour les Français.
Oui, hier soir, on a quand même bien vu que le président de la République était aussi très soucieux de déminer l'avenir. C'est-à-dire d'annoncer, alors qu'on est en pleine crise et que, bien sûr, le langage officiel, le discours officiel consiste à dire on mobilise toutes les ressources pour s'occuper aujourd'hui comment on peut gérer et faire reculer cette épidémie. Mais on voit bien aussi son souci permanent de se projeter sur l'après-crise, parce que l'après-crise sera aussi une crise. Et en faisant cette annonce d'intention sur le plan massif profond, sur global, sur l'hôpital, et qui est au fond une forme d'aveu sur ce qui n'avait pas été réussi jusqu'à présent, alors qu'il y a eu quand même des plans successifs. Hein. Roger le déclinerait bien mieux que moi, mais il y a eu des plans successifs d'annonce de la dernière chance pour enfin remettre l'hôpital sur les rails. À chaque fois, ça n'a pas débouché sur une amélioration ni un sentiment de, je dirais, d'apaisement du personnel hospitalier. Donc là, il fait cette annonce-là. Effectivement, vous avez raison, on n'a aucun contenu sur l'annonce. On sait qu'il y a des têtes de chapitre, revalorisation des carrières, investissement. On peut imaginer tout ce qui, évidemment, peut constituer un plan massif. Mais on a bien compris que l'enjeu était surtout de dire, je sais qu'après, il faudra quand même rendre des comptes, il faudra avancer, il faudra changer de modèle. Il le fait également, il y a quelques jours, lorsqu'il rencontre le culte, il parle de l'après. Ouais. À chaque fois. Donc, il est dans une logique où il regarde après, parce qu'en fait, il joue son quinquennat, tout simplement. En ce moment, il joue son quinquennat sur la façon dont il gère cette crise et la manière dont les Français le regardent en train de gérer cette crise. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il a commencé la crise en blouse blanche et il a continué en treillis. C'est-à-dire qu'il reprend son costume de présidentiel, de chef des armées, parce qu'il doit montrer qu'il prend des décisions et qu'il n'est pas sous la main. Vous le disiez tout à l'heure, c'est effectivement une question légitime. Il n'est pas, au fond, à la main des scientifiques. C'est lui qui décide.
C'est lui qui décide, exactement. On va regarder du côté de l'économie, comment ça se passe aujourd'hui avec vous, Emmanuel Duteil, parce qu'on a eu les chiffres de l'INSEE, l'Institut de conjoncture, qui estime qu'un mois de confinement ferait perdre 3 points de PIB annuel à l'économie tricolore. 2 mois de confinement, ça traduirait par une chute donc du double de 6 points.
Oui, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, quand on le dit comme ça, je pense que nos auditeurs se disent qu'est-ce que ça veut dire des points de PIB. Alors, ça veut dire 3 points, ça veut dire 80 milliards d'euros environ de perdus. 6 points, je vous laisse faire le calcul, ouais. 160 milliards d'euros de perdus. C'est bien évidemment considérable. Pourquoi c'est perdu? Parce que, et c'est ça l'élément le plus important que nous a donné aujourd'hui l'INSEE, un tiers de l'économie est à l'arrêt. Alors quand on regarde un petit peu le panorama qui a été fait ce matin par l'INSEE, ce qui tient à peu près bien, c'est le secteur agricole, le secteur agroalimentaire en général. Ça tourne encore. En revanche, dans l'industrie, c'est très disparate, mais il y a d'énormes difficultés. L'industrie automobile, hein, par exemple, est totalement à l'arrêt. Et vraiment, là encore, où c'est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les services. Bon, là encore, ça veut rien dire, mais les services, c'est quand vous allez, Nathalie, vous acheter une jolie petite robe, ou quand moi, je vais m'acheter un ordinateur ou ce genre de choses. Et bien, c'est ça, les services. Et ça, c'est à l'arrêt, puisque on le voit tous, hein, on ne sort pas et on fait uniquement nos courses alimentaires. Et bien, ça, c'est à l'arrêt total. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, l'économie est à ce point en difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire cette étude, l'INSEE a fait quelque chose de très traditionnel, hein, demande aux entreprises qui sont référencées comment ça va chez vous. Mais ils ont aussi regardé le trafic ferroviaire, les transactions de cartes bancaires, la consommation d'énergie. Et c'est ce qui leur permet d'avoir cette photographie plutôt claire et plutôt sûre, du coup, de la réalité de la crise en ce moment en France.
Ouais. Sûr, mais donc extrêmement inquiétante, on l'a compris. On va refaire un tour de table. Je voudrais aussi revenir avec vous tous d'ailleurs, sur les mots du professeur Jean-François Delfraissy, président donc du Conseil scientifique sur le Covid. On a parlé des masques, parce que les masques, ils font polémique. On va pas se cacher, se voiler la face. Il manque des masques. Il manque des masques. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit, Jean-François Delfraissy. C'est vrai, les réserves étaient insuffisantes. Et dans les 10 jours, là, dans la semaine, il devrait arriver 10 à 15 millions de masques. J'ai l'impression que c'est un peu cette promesse-là qu'on entend.
L'Arlésienne
depuis... Ouais, non ? Je sais pas, ça ressemble à ça, non,
Roger ? Il va bien y arriver. Il y a bien un jour, les masques vont arriver. Hein. Ils ont été commandés, ils sont en train d'être fabriqués. Moi, je pense qu'il y a les masques et puis il y a tout le reste. C'est-à-dire les masques, les tests et puis les kits de prélèvement pour faire les dépistages. Et puis maintenant, je lisais un article assez effrayant dans le Figaro ce matin d'un professeur de réanimation qui raconte qu'il manque du matériel dans les salles de réanimation. Donc, ils ont des lits, mais le matériel qui va avec, il commence à manquer, c'est-à-dire des choses aussi simples que des coussinets pour éviter que les patients qui restent longtemps en réanimation n'aient des escarres, donc soit leur corps soit abîmé, jusqu'à l'absence ou la difficulté sur le curare. C'est un médicament qui sert à détendre les muscles quand vous mettez l'intubation. Et donc, s'il y en a de moins en moins, ça veut dire que les malades ça sera moins confortable d'essayer de les soigner. Et puis, ça sert aussi aux soins palliatifs. Donc, c'est vraiment un matériel. Mais à chaque étage dans les hôpitaux, il manque du matériel, il manque des choses parce que personne ne s'attendait à une telle déferlante. Quoi. Ça, c'est vrai.
Bien sûr. Les masques, on va en reparler dans un petit instant avec vous aussi, Mickaël Darmon, parce qu'il y a eu des mots dits par Sibeth Ndiaye, par exemple, la porte-parole du gouvernement, mercredi, juste après le Conseil des ministres. Elle disait encore, je la cite, le président ne porte pas de masque car il n'en a pas besoin, qu'on respecte la distance de protection et tout va bien. Vous vous souvenez de cette phrase? On va en parler avec vous tous dans un petit instant, les grandes voix, à tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous et à distance, comme chaque soir, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service économie à Europe 1. Vous pouvez les interpeller, les grandes voix, leur poser toutes vos questions, réagir. Ça se passe au 39-21 en direct et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
On va continuer un petit peu sur la polémique autour des masques, si vous le voulez bien. Est-ce que je me suis plantée, Mickaël Darmon, pardonnez-moi pour ce vocabulaire, est-ce que c'était bien mercredi, donc hier, en point presse, après le Conseil des ministres, que la porte-parole du gouvernement disait « le président ne porte pas de masque, car il n'en a pas besoin, quand on respecte la distance de protection ».
C'était un point presse, mais peut-être un peu antérieur.
Ok, hier, ça ne vous a pas échappé, il portait bien ce masque FFP2, ah oui. C'est ce que je disais au professeur Delfrécy. Clairement, la défiance, elle monte au fil des jours. L'opinion se rebelle, s'interroge. Pourquoi ces masques qui protègent finalement les soignants et pourquoi pas nous? Est-ce que, en quelque sorte, il y aurait une asymétrie dans ces masques? C'est une contamination asymétrique. D'un côté, ils protègent les soignants, mais nous, ils ne nous protègent pas. Enfin bref, la question, elle est là. Et la polémique, elle monte, et elle n'a pas fini de monter, non ?
Non seulement elle n'a pas fini de monter, mais elle sera le fil rouge jusqu'à la fin et la sortie de la crise. Vous savez, les Français, ils ont tendu aussi une forme de ligne avec trois points, hein. Masque, gel, test. Et en réalité, on voit bien que à chaque fois, c'est ce qui explique aussi d'ailleurs les sondages qui montrent la défiance de l'opinion à l'égard du gouvernement, hein, à séparer de la popularité présidentielle, mais à l'égard du gouvernement et de la gestion par le gouvernement, on voit bien que ce sont ces critères qui sont jugés. On a bien compris qu'il y avait, et ça a été encore dit tout à l'heure, qu'il y a effectivement un problème dans le stock stratégique de masques à l'origine et que la pénurie est en train de tenter d'être comblée. Effectivement, ça tend à l'arlésienne, hein, comme le disait Ève. C'est vrai qu'on les attend tous les jours, hein, et ils vont finir un jour par arriver, peut-être comme la cavalerie. Mais l'idée, c'est que par rapport en tout cas au geste présidentiel hier, eh bien, il faut savoir que depuis quelques jours déjà, dans l'entourage du président, on lui faisait remarquer qu'il devait porter un masque. Il devait le faire parce que il doit aussi quelque part montrer qu'il est quand il va au cœur de l'épidémie, quand il rencontre des gens qui peuvent être porteurs, eh bien, il doit se protéger parce qu'il y a aussi son rôle et sa fonction à protéger. Et cela, ça a été hier, ça faisait partie de la scénographie très, très calibrée, hein, de ce déplacement à l'hôpital militaire à Mulhouse. Il n'y avait pas un ministre autour de lui. Il s'est mis en avant pour montrer qu'il assumait lui-même les décisions. Et comme on l'a dit, il a fait des annonces pour l'après. Mais par rapport au masque, ce sera la polémique jusqu'au bout.
Ce sera la polémique, bien sûr.
Absolument, avec le gel et ensuite avec les tests, puisque là aussi, les explications tout à l'heure laissaient un peu encore un peu dubitatif sur la vraie sortie de confinement par rapport à l'arrivée des tests.
On est avec Chantal qui nous appelle de Cadillac, c'est pas loin de Loupiac, c'est au sud de Bordeaux, on salue la Gironde, pas loin de Loupiac et on en a ô combien besoin de ça en ce moment. Bonsoir à vous Chantal.
Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir sur votre antenne. Je vous expose un petit peu nos difficultés. Donc, à Cadillac, à l'hôpital de Cadillac, il y a 658 lits. Donc 30 lits de préparation à Covid-19 et à ce jour, nous avons une rupture totale de gants. Donc nous attendons la livraison d'ARS, pas de masque, pas de solution hydroalcoolique, pas de flacon, pour pas de blouse, pas de surblouse, pas de couvre-thermomètre, il nous manque des combinaisons. C'est complètement inacceptable. Les patients ne peuvent pas être soignés avec des soignants qui sont mis à nu, qui n'ont aucune protection pour faire les soins. Donc voilà, nous attendons.
Chantal, pas de masque, pas de gants, pas de gel hydroalcoolique. Depuis quand? C'est une aberration.
Depuis des semaines, les soignants sont en grosse difficulté. Ils n'arrivent plus à travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est plus possible d'attendre. Nous avons assez attendu. Et là, je dois dire que bientôt, nous allons avoir des morts, des patients qui vont mourir du Covid-19, mais nous aurons de plus en plus de personnel exposé et qui vont mourir aussi.
Vous n'êtes pas en mesure, évidemment, d'attendre 10 jours, comme l'a dit le professeur Delfrécy. 10 jours, c'est une éternité pour vous.
Nous ne pouvons plus attendre. Les soignants font preuve de responsabilité, d'adaptabilité, si vous voulez, mais là, face à cette pénurie, je vous dis, c'est complètement inacceptable. Nous n'avons pas de masque, nous n'avons pas de blouse, de surblouse, nous n'avons pas de combinaison. Comment voulez-vous que des soignants puissent travailler alors qu'ils sont fatigués, usés, et nous ne pouvons plus travailler, nous ne pouvons plus prendre en charge les patients et venir travailler sans couverture.
Merci beaucoup Chantal, c'est édifiant là encore. Chaque soir on a des témoignages qui donnent la chair de poule. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir. On espère évidemment pouvoir relayer au maximum votre appel au secours, parce que c'est vraiment ça que vous nous avez livré. Cet hôpital de Cadillac au sud de Bordeaux, en Gironde, la Gironde, on est en France, on est dans un pays riche, les grandes voies. On entend cet appel au secours, oui, de Chantal. Pas de gants,
dire quelque
pas
chose,
de masque, pas de flacon. Oui, Evre,
effectivement, c'est ahurissant, mais c'est vrai qu'il faut gérer la pénurie. Et comment on gère la pénurie? C'est terrible pour Chantal, mais les masques, enfin le peu de masques et le peu de matériel qui arrive aujourd'hui en France, il est d'abord dirigé vers les régions où l'épidémie est virulente. Elle est exponentielle, et ça on l'a vu déjà dans le Grand Est, on a vu, c'est la région la plus meurtrie. L'Île-de-France rentre dans le dur, je vous l'ai raconté tout à l'heure, et c'est vrai que petit à petit, le matériel arrive au fur et à mesure. Enfin, on est toujours derrière, enfin, on le dit depuis le début, qu'on court toujours derrière le matériel, et qu'effectivement, les régions qui sont pour l'instant, alors je pèse mes mots, qui sont un peu plus épargnées que d'autres, et bien sans doute que le matériel arrive un peu plus tard, parce qu'on n'en a pas assez. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, hier soir, il y avait un décompte de 912 cas. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y en a près de 8000, et un peu moins dans le Grand Est. Donc je pense
que c'est quand même une situation inextricable, on voit bien.
Mais bien sûr.
On entend le désespoir de ces soignants qui sont prêts à donner leur vie, et on est à 658 lits, c'est pas rien, même si c'est pas l'ensemble des cas Covid qui sont évidemment sur ces 658 lits, mais c'est pas rien, et ça dit beaucoup de choses encore une fois sur cette crise et sur ce qu'il faudra expliquer ensuite aux Français. Emmanuel Dutheil, je vais venir vers vous dans un petit instant, mais si on reste sur les masques, ce sont les policiers, Michael Darmon, qui se sont fait entendre aujourd'hui, parce que eux, ils ont prévenu: s'ils n'ont pas de masque, stop, ils arrêteront, sans masque, ils arrêteront d'effectuer les contrôles de confinement. Et là, on flirte avec la catastrophe.
C'est la menace portée par un des syndicats policiers. Donc en tout cas, c'était une alerte. On va voir comment ça va se gérer. Mais en tout cas, cela montre effectivement à quel point le problème des masques est en train de devenir général et de traverser l'ensemble de ces lignes. Il y a les premières lignes et deuxième ligne. Les policiers font partie très certainement de la deuxième ligne définie hier par le président de la République. Mais s'ils mettent leur menace à profit, en action, eh bien, ça va être un problème supplémentaire, un front supplémentaire.
Alors, Laurent Nunez a très vite réagi. Hein, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur a promis là que la protection des policiers était essentielle et que évidemment les réponses allaient être là imminentes, hein, aussi bien en termes de masques que de kits de protection distribués au commissariat de police. Bien sûr, les questions économiques, elles sont importantes, voire essentielles aussi en ce moment. Emmanuel Dutheil, on l'a entendu, plutôt on l'a lu. Le G20 qui sort l'artillerie lourde, a priori.
Oui, alors le chiffre paraît énorme, hein, 5000 milliards de dollars mis sur la table par les membres du G20. C'est quoi déjà le G20? C'est les 20 plus grosses économies de la planète. C'est un G20 qui se tenait bien évidemment en vidéoconférence en raison du coronavirus. C'est aujourd'hui sous l'égide de l'Arabie Saoudite, donc officiellement ça se tenait autour du roi Salman à Riyad. On va dire que c'est là-bas qu'était la pieuvre, ou c'est là-bas que partait la connexion Internet. Donc ils ont décidé 5000 milliards, c'est énorme sur le papier, mais c'est jamais que l'ajout de tous les plans qui ont pu être annoncés un peu partout. Par exemple, on en parlait hier soir à la même
États-Unis.
Heure, c'était 2000 milliards rien que pour les États-Unis. Donc c'est énorme. On voit qu'il y a évidemment une mobilisation gigantesque et peut-être un petit peu historique, parce que si on regarde un peu les dernières grandes crises, après 2008, il avait fallu des semaines, des mois pour qu'on ait le fameux G20 de Londres qui avait remis un peu tout ça. Nicolas Sarkozy pour la France avait été à l'époque assez actif. Bon bah là, c'est quelques jours après l'énorme choc. Alors vous allez me dire, ça fait des semaines que ça se passe en Chine, mais en tout cas ça fait quelques jours, quelques dizaines de jours que ça se passe vraiment en Europe, là en ce moment aux États-Unis, où c'est cataclysmique là-bas aussi, hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc les économies, les grandes économies tentent de réagir pour tenter d'endiguer ce qui est endiguable en ce moment au niveau de l'effondrement de l'économie.
Michaël Darmon, sur le G20, un mot ?
Oui, j'ai vu le document final. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il mentionne que les pays vont articuler leur souveraineté et mieux coopérer, hein, puisqu'il est question justement de dire on va restaurer des capacités nationales, régionales et globales. Ce qui veut dire que la souveraineté dans l'instance de la gouvernance globale qui était le G20 est en train de reprendre également, donc je dirais, une place inattendue, et ce qui est aussi un effet de la crise, c'est-à-dire place aussi aux reproduction locale. On voit bien que ce G20 est aussi un peu paradoxal. Il est en train de montrer que, eh bien, la gouvernance mondiale face à cette crise n'est pas peut-être la vraie réponse.
Les grandes voix, j'aimerais qu'on conclue cette séquence aujourd'hui, ce nouvel épisode, cette nouvelle session ensemble et à distance, par une note un peu plus positive, si vous le voulez bien. Oui, je sais que ça paraît déraisonnable, mais quand même, on va se lancer. Parce que j'ai vu les Français ont l'air de quand même résister. C'est notre sondage BVA Orange qui nous est livré quotidiennement. Principaux enseignements de cette 8e vague, le moral des Français continue à s'améliorer avec une note moyenne de 6,2 sur 10, et surtout le sentiment que le pire devant nous s'érode peu à peu, avec des télétravailleurs qui d'ailleurs trouvent de plus en plus leur marque. Ève Roger, Emmanuel Dutheil, oui. Michaël Darmon, on s'habitue à tout, c'est ça, hein?
Non, mais c'est par phase, en fait, le confinement. Ceux qui l'ont vécu depuis plus longtemps que nous, il y a des phases difficiles, il y a des phases qui sont plus faciles. Donc là, on effectivement, cette deuxième semaine, on commence à s'habituer à prendre nos marques, mais il paraît qu'après, il y a un peu des rechutes, parce qu'au bout d'un moment, on finit par en avoir marre, quoi. Mais ouais, enfin, c'est plutôt
moi,
bon.
Moi, je suis assez d'accord avec Ève Roger, hein, parce que je trouvais que je vais donner mon exemple personnel, aussi intéressant
allez-y.
Puisse être.
Bien sûr.
Mais j'ai trouvé que les premiers jours du télétravail, alors que je n'avais jamais fait de télétravail de ma vie, étaient durs, parce que fallait s'organiser, fallait s'installer un bureau, fallait gérer une connexion Internet parfois un peu plus capricieuse qu'au travail. Et c'est effectivement là, depuis quelques jours, l'impression que les choses sont en train de s'organiser, avec des équipes européennes qui sont par ailleurs formidables. Je ne sais pas si on salue assez nos services techniques et toutes les équipes de la rédaction qui portent cette antenne extraordinaire chaque jour. Mais je comprends qu'il y ait ce petit plus. Après, j'entends très bien Ève Roger, elle est très douée en psychologie. Je me prépare au pire.
Non, pas au pire.
Alors, on applaudit en régie. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendent. Il y a des applaudissements en régie, parce que c'est vrai que... Largement mérité. Michaël Darmon, vous êtes comment à ce stade ?
Eh bien, moi, je vais être un petit peu... Excusez-moi, je vais un petit peu casser l'ambiance, parce qu'il me retrouve... J'ai quelques retours quand même. Oui, c'est comme ça. J'ai quelques retours, on va dire, hors profession, où on commence aussi à s'apercevoir que le télétravail, eh bien, en effaçant la frontière entre le public et le privé, avec les enfants autour, c'est un peu compliqué. Certains disent on est au fond assez. C'est plus fatigant d'être sans arrêt devant les écrans. On est sollicité à n'importe quelle heure. Peut-être. Et j'entends aussi dans ce même sondage d'ailleurs que souvent ce sont les femmes qui s'aperçoivent que c'est plus compliqué à gérer. Alors que ben, normalement les familles sont là avec les conjoints s'ils sont là. Peut-être qu'il y a aussi une répartition.
Ça change rien, Michael.
Voilà, peut-être. Voilà, ça veut dire qu'il y a donc, malgré le télétravail, il y a encore peut-être un problème de répartition au sein des couples qui va commencer à jaillir. Donc, pardon, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais dans cette unanimité, peut-être que ça sera moins
sur. Vous avez ramené à la triste réalité de la vie.
Voilà, c'est ça. Bon, c'était bon de vous entendre aussi dans votre quotidien, les grandes voix. Je suis sûre que ça fait plaisir à nos auditeurs dans ces moments difficiles de savoir aussi comment vous vivez ça. Et vous avez entendu les applaudissements, évidemment, ils sont justifiés parce que nos équipes techniques sont formidables.
Elles sont formidables.
Nous avoir mis à l'abri, chez nous, et nous avoir permis très vite, immédiatement, de faire face et d'être bien équipés, bien installés pour pouvoir vous informer et pouvoir être solidaires à distance. Merci les grandes voix, à demain.
Merci,
à demain Nathalie.
Bon, je vous embrasse.